très rapidement revoir un petit peu ce qu'a été l'expérience du prophète Élisée avec son serviteur dans 2 Rois chapitre 6. Et bien sûr, pour comprendre le contexte, il nous faut peut-être relire tout un pan de ce chapitre, ce chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, du verset 8. Et oui, on est obligé du verset 8, parce que je me bats contre la montre, mais peut-être qu'il ne faudrait pas. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 jusqu'au verset 23, pour comprendre bien le contexte de cette histoire. Nous lisons ensemble 2 Rois chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation !» Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie, lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie. Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Quelle belle histoire ! Ce n'est pas une fable, c'est une histoire réelle qui s'est passée en son temps. Et ce que je peux dire dès à présent, c'est que eh bien, la fin de notre histoire nous montre que Dieu a toujours le dernier mot. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? C'est Dieu qui est au contrôle. Et à la fin de cette vie terrestre, le Seigneur aura toujours le dernier mot. La Bible nous dit que tout genou fléchira devant notre Dieu. Le mal semble prendre de l'ampleur dans ce monde, mais je vous dis de la part de Dieu, le Seigneur aura toujours le dernier mot parce qu'il est le souverain maître. Mais permettez-moi de relever peut-être quelques enseignements, enseignements pratiques concernant la foi du prophète Élisée. Une foi qu'il a mis à valoir au travers de ce texte, et peut-être avant cela, regardez d'abord l'attitude de son serviteur, puisqu'il est question d'Élisée, mais également de son serviteur. Et pour ce faire, on peut revenir au verset 15 de Rois, chapitre 6, verset 15, et nous lisons ce qui est écrit. « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Arrêtons-nous quelques instants sur ce verset 15. La question du serviteur d'Élisée, elle n'est pas anodine et on s'y retrouve. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reste indifférent à cette question. Imaginez-vous cet homme qui, la Bible nous dit, de bon matin se lève, il sort de son lit, il prend, il met ses souliers. Et alors qu'il sort pour admirer le beau paysage qui entourait la ville de Dothan, quelle ne fut pas sa surprise, mais aussi sa stupeur, mais aussi sa frayeur surtout, quand il vit eh bien, toutes les montagnes qui entouraient la ville de Dothan être eh bien, envahies par les troupes syriennes. Et voilà qu'un cri sort au plus profond de son cœur et il se tourne vers le prophète et va lui dire « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Comment vais-je m'en sortir ? Comment allons-nous nous en sortir face à cette invasion ?» Et je dis, on ne doit pas être indifférent eh bien, à ce cri, parce que ce cri, bien souvent, même dans notre marche chrétienne, nous l'avons exprimé. Quand un bon matin, alors qu'il... Ça devait être une journée comme les autres. On a réellement senti d'une manière palpable que l'ennemi eh bien, s'entourait, nous entourait, s'amoncelait autour de nous et eh bien, se concentrait eh bien, pour essayer de nous terrasser. À qui c'est déjà arrivé ? Des jours noirs. Où on pourrait dire, eh bien, comme eh bien, le serviteur, « Ah, comment ferons-nous ? » Il y a une autre version qui dit, « Hélas, comment ferons-nous ? » Ou une autre version dit, « Malheur !» Et peut-être dans son esprit, il se faisait déjà eh bien, un film eh bien, de ce qui allait arriver et de ce qui serait inévitable. La question est typiquement humaine et presque inévitable. Surtout lorsque nous nous retrouvons face à quelque chose qui est à nos yeux comme insurmontable. Et voyez-vous, cette parole qu'a prononcée eh bien, ce serviteur, mais aussi cette parole que bien souvent nous avons prononcée dans notre marche chrétienne, eh bien, elle dénonce aussi eh bien, chez nous un manque de connaissance de ce Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu Tout-Puissant qui a décidé d'être notre Père. Ce Dieu Tout-Puissant qui a décidé d'être à nos côtés pour nous soutenir, pour nous secourir et pour combattre pour nous. Vous savez, si on réalisait davantage qui est le Dieu qui est devenu notre Père, nous ne poserions pas eh bien, ces genres de questions. Qu'allons-nous devenir ? Que ferons-nous ? Seigneur, comment vais-je m'en sortir dans telle ou telle situation ? Peut-être c'est la question de quelqu'un ce matin. Tu es venu eh bien, par la grâce de Dieu, mais tu as eu du mal à louer, à prier ce matin. Parce que tu es là dans les soucis, tu es là eh bien, dans la difficulté, et un problème, une montagne, une adversité eh bien, semble comme t'entourer, et tu te poses la question, comment vais-je m'en sortir ? Mais si eh bien, nous nous appliquons à connaître davantage ce Dieu d'amour, ce n'est pas cette question que nous poserons. Comment m'en sortir ? Comment allons-nous faire ? Nous allons nous poser la question suivante. Seigneur, de quelle manière tu vas réussir cette fois-ci eh bien, de me tirer de là ? Comme les autres fois d'ailleurs. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Je fais un volte-face et vous pouvez aussi en faire autant. Et regardez toute votre vie eh bien, passée. À partir du moment où vous avez donné votre cœur au Seigneur, à quel moment Dieu eh bien, nous a manqué de fidélité ? À quel moment Dieu eh bien, nous a été en défaut ? Toujours Dieu a été fidèle. Il est un véritable Père. Amen, frères et sœurs. C'est une réalité. Le problème, c'est peut-être que nous ne levons pas assez nos têtes. On a entendu tout à l'heure, au travers d'une prière, « Je lève les yeux vers les montagnes, mais au-delà des montagnes, il y a le Dieu d'amour qui est là. » Et qui est prêt à nous secourir, quelles que soient eh bien, nos situations, quelles que soient nos peines. Que Dieu nous aide à toujours nous recommander à lui, car il désire nous assister dans tous nos besoins. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. Je vais vous lire ce passage dans la version Parole vivante. Je ne sais pas si on peut la voir sur l'écran. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Et j'aime beaucoup la fin de ce verset. Il vous a pris en charge. C'est déjà fait. Et à la croix, Dieu nous a montré au travers de son Fils Jésus-Christ, eh bien, que s'il n'a pas épargné son propre Fils, à combien plus forte raison va-t-il nous donner tout ce dont nous avons besoin ? Mais là où je voudrais m'attarder avec vous eh bien, ce matin, c'est surtout eh bien, sur cette foi que le prophète Élisée a mis à valoir. On va laisser là le serviteur d'Élisée, mais peut-être m'arrêter quelques instants et découvrir cette foi manifeste que cet homme de Dieu a manifestée. Le serviteur vient avertir Élisée, lui informant eh bien, cette troupe qui vient entourer la ville de Dothan. Et le prophète, l'homme de Dieu, constate lui-même par ses propres yeux physiques que effectivement ce que le serviteur a, eh bien, son serviteur lui a dit était la pure réalité. Mais voyez-vous, ce que je constate, c'est que cet homme a eu une autre attitude. Il y a une même situation critique. Ils sont assiégés, ils ont les mêmes regards, ils ont le même constat. Mais par contre, on remarque deux discours différents, deux visions différentes. J'ai envie de dire deux attitudes différentes. Le serviteur, lui, de son côté, était dans le désespoir. D'ailleurs, il va dire, malheur, comment ferons-nous ? Pour lui, il avait déjà eh bien, eu en vision de son esprit eh bien, qu'ils étaient liquidés, qu'ils seraient liquidés. Par contre, eh bien, on ressent vraiment eh bien, que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, lui, était dans l'espérance. D'ailleurs, il va le dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En fait, le prophète Élisée, il n'a pas voulu se laisser perturber par les ennemis d'Israël, par les troupes syriennes. Il a, au contraire, a bien voulu placer sa confiance en son Dieu. Il a choisi de se cacher en Dieu. Et cette attitude de foi lui a été bénéfique à lui, mais aussi à son serviteur. Et j'aimerais vous le montrer par deux ou trois enseignements que je voudrais tirer juste du verset suivant, le verset 16, de Rois chapitre 6 et le verset 16. Ce que je peux peut-être dire premièrement, c'est que la foi d'Élisée lui a permis de rester dans une totale sérénité. Quand je lis et je relis ce texte, je n'ai pas l'impression de voir un homme là agité. Je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un eh bien, qui a été emporté par la frayeur, ni par eh bien, l'agitation. Non, au contraire, Élisée est resté dans une totale sérénité, une totale paix. Et cette paix, voyez-vous, elle ne peut provenir de son raisonnement, elle ne peut venir de ses propres efforts ou de ses propres forces. Non, cette paix, cette sérénité, eh bien, elle provient ni plus ni moins de sa confiance qu'il a placée en son Dieu. Et ça peut nous parler ce matin. Ça doit nous parler ce matin. Cette paix, cette sérénité, eh bien, elle provient aussi de sa totale confiance dans les promesses de Dieu. Promesses eh bien, qui pullulent, excusez-moi l'expression, dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 27, par exemple, une des promesses, ou en tout cas une des déclarations du grand roi David, psaume chapitre 27, juste les trois premiers versets. Psaume 27, du verset 1 à 3. Voilà David qui s'exprime en son temps. L'Éternel. Ah, j'entends des bruits de feuilles, j'attends un petit peu. Parce qu'il faut que vous l'ayez devant vos yeux. Et que ce soit une déclaration, mon frère, ma sœur, que tu puisses exprimer devant ton Dieu. Bien sûr, avec foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Et quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et regardez ce qu'il est dit. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et je me rends compte que ce verset 3, il s'applique vraiment à ce qu'a vécu Élisée et son serviteur. Mais c'est peut-être aussi ce que peut vivre quelqu'un eh bien, ce matin. Et Dieu te dit, si une armée se campait contre toi, ton cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre toi, voilà ce que Dieu te promet. Je serai malgré cela. Alléluia. À tes côtés, et toi, tu seras plein de confiance. Est-ce que tu peux le croire ? Est-ce que tu peux l'accepter ce matin, afin que tu puisses sortir de ce qui te trouble et qui t'empêche même de dormir ? Peut-être que tu as l'impression qu'une armée de difficultés campe contre toi, Mais sache néanmoins que la paix de Dieu a le pouvoir de garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est une réalité. Et je crois que Dieu est à même de nous apporter sa paix, une paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais une paix ineffable qui nous donne quand même à continuer à regarder vers le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui est à la droite de la majesté divine et qui intercède pour chacun d'entre nous. Je me rappellerai toujours ce jour où j'étais, moi aussi, eh bien, comme encerclé par toutes sortes d'adversités. J'étais étudiant à ce moment-là, je tournais comme un lion en cage dans ma chambre universitaire. Et à un moment donné, eh bien, pris de terreur, je me suis mis à genoux et j'ai crié à ce Dieu d'amour qui est devenu mon Père. Et j'ai vu littéralement comme une pluie invisible, mais bien palpable, tomber sur moi, alors que j'invoquais Dieu. Et je vous assure, à ce moment-là, une paix indicible est venue m'animer. L'épreuve était toujours là, les difficultés étaient toujours là, les troupes syriennes étaient toujours là. Mais mon cœur était en paix, et mon Père, alléluia, m'était en train de me dire, Joël, ne t'inquiète pas, car je vais veiller sur toi, je vais combattre pour toi. La foi d'Élisée, donc, lui a permis de rester dans une totale paix, dans une totale sérénité. Mais j'ai envie de dire aussi que la foi d'Élisée lui a permis également d'apaiser la frayeur de son serviteur. Et c'est le verset 16 qui nous le dit. On peut relire 2 Rois, chapitre 6, et le verset 16. Est-ce qu'on peut donc l'avoir sur l'écran ? 2 Rois, chapitre 6, et le verset 16. Il répondit. Alors que, imaginez-vous la scène, ce serviteur tout agité, effrayé. Et certainement, le prophète Élisée, avec un tel calme, va lui répondre, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Juste m'arrêter sur le début de cette parole empreinte de foi, « Ne crains point. » Vous savez, si Élisée peut dire à son serviteur « Ne crains point », c'est parce que lui-même était dans la paix. On ne peut pas dire aux autres « Ne crains point » ou « Sois dans la paix » si nous-mêmes on n'est pas dans la paix. Et croyez-moi, quelque part, Dieu cherche parmi ses enfants des personnes qui, par leur foi, qui, par leur confiance en Dieu, eh bien, savent apaiser les cœurs agités. Vous ne voyez pas que ce monde est troublé. Et combien même aussi, dans une église, dans une auditoire comme celui-ci, ce matin, il peut avoir des cœurs troublés. Et que Dieu puisse trouver des hommes, des femmes, des grands frères, des grandes sœurs, qui sauront apaiser les cœurs à cause de la paix qui vous anime. Et qui pourra après être reversé dans les cœurs agités. Un peu comme Josué, Caleb, qui à un moment donné essayèrent de calmer le peuple hébreu qui fut effrayé aux portes du pays de Canaan. On leur avait dit que ce pays de Canaan était infesté d'ennemis, était infesté également de géants, et c'est là aussi qu'ils prirent panique. Mais Josué et Caleb ont voulu à ce moment-là apaiser leur cœur. Regardez d'ailleurs ce qu'ils disent dans Nombre chapitre 14, les versets 6 et 9. Nombre chapitre 14, versets 6 et 9. Nombre chapitre 14 et le verset 6 à 9. Nous lisons. Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et j'ai envie de dire ce matin à quelqu'un, ne crains pas. Et comme on l'a entendu au travers d'une parole tout à l'heure, lors du moment de prière, que ton cœur ne se trouble point. Ne sois pas dans l'agitation. Ne crains pas ce que tes yeux physiques peuvent voir. Mais aie ces yeux spirituels pour voir que l'Éternel est prompt à pouvoir se lever et combattre pour toi. Partout où Dieu nous place, nous sommes appelés à être des communicateurs de la paix. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Partout où Dieu nous place, nous sommes amenés, nous sommes invités à pouvoir à bien communiquer la paix surnaturelle, indescriptible, à bien que Dieu a placée dans nos cœurs. Nous avons le pouvoir de faire reposer sur le prochain la paix que Dieu a déposée dans nos cœurs. Un autre passage, Luc chapitre 10, les versets 5 et 6, qui le confirment d'ailleurs. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'étais agréablement surpris. Quand on lit la Bible, on est agréablement surpris. Et quand Dieu nous apporte des révélations, on est plus qu'agréablement surpris, on est émerveillé. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et le verset 6 qui nous intéresse, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Je m'adresse aux chrétiens ici, dans cet auditoire. Nous sommes appelés à prodiguer la paix autour de nous. Prodiguer la paix dans nos familles, prodiguer la paix eh bien dans le cœur peut-être de notre conjoint, la paix dans le cœur de nos enfants, ou de nos parents, ou de nos voisins. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. La paix n'est-il pas également un des fruits de l'esprit? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La foi d'Élisée lui a permis donc d'apaiser la frayeur de son serviteur. Mais la foi d'Élisée lui a permis également de prononcer, j'ai envie de dire, une vérité qui ne se voyait pas à l'œil nu. Et cette vérité, on l'a lue et je la relis. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que nous le croyons ce matin? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui pourraient t'entourer, mon frère, ma sœur, ceux qui pourraient même eh bien, te donner quelques frayeurs, sache qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avec toi. Avec Dieu et toute son armée céleste, nous formons toujours la majorité, en nombre, en qualité et en puissance. Élisée était convaincu que son Dieu était à ses côtés et qu'il ne l'abandonnait pas. C'est pour ça qu'il vivait cette espérance. C'est pour ça qu'il était dans cette paix surnaturelle. Il ne s'est pas inquiété comme son serviteur. Alors de même, réalisons que Dieu est avec nous chaque jour qui passe. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? C'est des choses qu'on sait, c'est le béaba de l'évangile. Dieu est avec nous chaque jour qui passe. Mais on a besoin de le réaliser, de pleinement l'imprégner et de vivre en conséquence cette réalité. Seigneur, tu es là avec moi. Seigneur, tu sais ce que je vis, tu connais les problèmes que je vais affronter dès demain au travail, tu le sais. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi chaque jour. Autrement dit, le Dieu qui est au contrôle de tout l'univers est avec nous. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. À plus forte raison lorsque nous traversons l'épreuve et l'adversité. Quand on dit, oh Seigneur, j'ai l'impression que tu m'abandonnes. Est-ce la réalité? C'est impossible. C'est impossible. Si nous connaissons notre Dieu, nous nous refusons de prononcer de telles paroles. Parce que plus que jamais, eh bien Dieu est à nos côtés, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Regardez ce qu'a dit le psalmiste David dans le psaume 23. Qui ne connaît pas le psaume 23? Mais il va dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. David a choisi l'un des moments les plus critiques dans notre marche, les moments d'épreuve, les moments de difficulté, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il avait besoin de pouvoir mettre ça au cœur même de son psaume, le psaume 23. Il l'a introduit avec l'Éternel est mon berger. Mais il va préciser, Seigneur, tu es avec moi, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Jésus est venu parmi les hommes en portant eh bien, un autre nom, c'est le nom Emmanuel. Et vous savez ce que veut dire Emmanuel ? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus en marchant parmi les hommes, c'est littéralement Dieu, le créateur de toutes choses, qui marchait. Alléluia, parmi les hommes. Dieu a voulu être avec les hommes et Dieu est avec nous. Dieu, eh bien, alléluia, eh bien, se propose de marcher à vos côtés jour après jour. N'est-ce pas aussi la promesse que Jésus laissa à ses disciples avant de remonter au ciel ? Bientôt, on va fêter la fête de l'Ascension le mois prochain. Nous parle du retour du Seigneur en gloire. Mais avant, il a laissé une promesse à ses disciples. Et voici, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ayons, mes amis, mes frères et sœurs, ce matin, les yeux ouverts sur le maître incontesté, celui qui contrôle toutes choses. Et réalisons, alléluia, qu'il est à nos côtés. Souvent, eh bien, lorsque nous traversons l'adversité, on panique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. On panique, on est affolé, au point peut-être de ne pas avoir le réflexe premier de solliciter celui qui a décidé de demeurer avec nous, c'est-à-dire Dieu. Et alors que je préparais ce message, je repensais encore à ce qu'a été l'expérience des disciples quand ils ont voulu traverser, plutôt quand Dieu, le Seigneur Jésus, leur a demandé de traverser le lac de Galilée. Et alors qu'ils se trouvent au milieu de ce lac, ils sont pris à partie, ils sont environnés par une tempête qui les menace. Et ce que je constate, c'est que eh bien, les disciples, au lieu de réaliser celui qui était assis, vous savez, sur le coussin à l'arrière du bateau. D'ailleurs, je me demande si les disciples n'ont pas dit à Jésus, écoute Seigneur Jésus, là, maintenant, là, c'est notre domaine. Hein. Je vois Pierre. Ce n'est pas le texte qui le dit, hein, mais je peux me l'imaginer. Pierre, il dit, bon, tu sais, moi, je suis marin pêcheur de presque de naissance. Alors reste là tranquillement. Il faut que tu te reposes. Allez, ils ont mis le Seigneur au fond, derrière, sous un coussin. Ils ont préparé le coussin. Reste là. On maîtrise. On traverse le lac. Facile. Et puis arrive la tempête. Et c'est là qu'ils paniquent. Ils sont affolés. Et leurs yeux sont fixés sur la tempête. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le maître des eaux, le maître de l'univers, qui était là en train de dormir tranquillement. Au lieu d'être émerveillé par eh bien, celui qui eh bien, dormait tranquillement, d'ailleurs, plusieurs commentateurs se posent la question comment il a pu dormir avec cette tempête. Eux, ils étaient concentrés sur les flots qui les menaçaient, au point qu'ils, eh bien, à un moment donné, ils ont fait appel au Seigneur Jésus. Et vous avez vu combien, avec un mot, avec un ordre, Jésus a calmé les flots. Nous avons dans notre barque, nous avons avec nous jour après jour, nous avons dans notre vie, dans notre cœur, celui-là même qui est en mesure de calmer vos difficultés, vos tempêtes. Et quelquefois, on continue à paniquer. On veut faire par nous-mêmes. On veut faire par nous-mêmes. Vous savez, quand c'est plus fort que nous, soyons humbles pour nous tourner vers le Seigneur. Ou plutôt, eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous donne à avoir les yeux ouverts sur le maître des flots, le maître des temps et des circonstances. Le créateur de toutes choses. Sachons au contraire nous réjouir de ce qu'il est là pour nous et avec nous. Jamais Dieu m'a abandonné. Je le dis avec fierté, avec force. Ça fait 31 ans que je marche avec le Seigneur. Jamais Dieu m'a abandonné. Et il ne m'abandonnera jamais. Et je sais qu'il le fera avec chacun de ceux et de celles qui ont choisi de lui faire pleinement confiance. La vérité, c'est que tant que le Seigneur est à nos côtés, rien ne pourra nous nuire. C'est le prophète Ésaïe qui, en son temps, l'a bien compris. Et à un moment donné, il a adressé aux ennemis d'Israël une parole que j'aimerais placer devant vos yeux, Ésaïe chapitre 8 et le verset 10. Comme pour leur lancer un défi, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi ? Car Dieu est avec nous. Et vous pouvez braver l'ennemi, et vous pouvez braver le diable avec tous ses hordes de démons. Il peut former tous les projets qu'il veut. Il peut peut-être se préparer à la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel parce que, alléluia, Dieu est avec nous. Dieu combat à nos côtés, frères et sœurs. Je voudrais terminer, je ne veux pas être long ce matin. La foi d'Élisée lui a également permis de prier pour son serviteur. Vous savez, si on n'a pas la foi, on ne priera pas. Joël, qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Un chrétien, ça prie. Mais regardez bien. Quelquefois, on ne prie pas parce qu'on ne croit pas que Dieu peut intervenir. On va chercher même le médecin, on va essayer de se démener comme les disciples dans la barque. Mais finalement, on ne priera pas parce qu'on ne croit pas. Mais parce que Élisée avait la foi, il a pu prier. Et il a pu prier pour son prochain. Et on le voit dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est sans aucun reproche qu'Élisée va faire le choix de pouvoir bénir de pouvoir exprimer cette prière à Dieu pour son serviteur. Il ne lui a pas dit, mais tu n'es pas spirituel, toi. Oh, tu as besoin de connaître davantage ton Dieu. Il n'a pas fait tout cela, sans aucun reproche. Je suis sûr, avec compassion, avec tendresse, le prophète Élisée a déposé sa bonne main sur peut-être la tête de son serviteur. Et levant la tête au ciel, il pria pour bénir son prochain. Avec compassion et patience, Élisée pria Dieu de tout son cœur en faveur de son serviteur. Et qu'est-ce que Dieu fit ? Dieu ouvrit les yeux du serviteur qui prit conscience à son tour de la réalité de la présence de l'armée de Dieu. Je suis sûr qu'à ce moment précis, pendant quelques instants, il a été un peu confus. Lui qui était agité, lui qui était affolé, lui qui pensait que toutes les portes étaient fermées, il a réalisé que le Seigneur avait déjà tout préparé d'avance. De ses yeux vus, ses yeux physiques, il a vu l'armée de l'Éternel. Il voyait avec ses yeux physiques auparavant l'armée de l'ennemi, des chevaux et des chars. Mais là, il nous est précisé qu'il y a également des chevaux et des chars de son côté. Mais il précise, le texte précise, des chevaux et des chars de feu. Et c'est là qu'il y a toute la nuance. Vous savez, le feu dans la Bible, c'est symbole aussi de jugement, mais c'est aussi symbole de la puissance de Dieu. Et Dieu est tout puissant. Il est prêt, alléluia, à mettre en place ses chars de feu, ses chevaux de feu, alléluia, pour que nous puissions être victorieux face à tous nos ennemis. Vous savez, l'Éternel, il combat pour nous. Et ce qu'il nous demande, c'est peut-être dans la foi, d'être dans le silence et le laisser combattre pour nous. Il constata que Dieu dans sa souveraineté, parlant du serviteur, que Dieu dans sa souveraineté avait déjà tout préparé, bien avant que lui-même ne découvre la situation. Et nous aussi, on a besoin de demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Les yeux physiques, on les a pour voir peut-être les difficultés, pour voir ce que nos yeux humains peuvent voir. Mais on a besoin de demander au Seigneur qu'il oigne nos yeux d'un collyre céleste, afin que nous puissions voir comme lui, il nous voit. Que nous puissions voir ce que la parole nous dit d'avance, et ce que la Bible nous dit d'avance, c'est dans Romains chapitre 8, c'est que nous sommes en Jésus-Christ plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Les dés sont déjà lancés, on connaît la fin de l'histoire. Vous voulez connaître la fin du monde ? C'est écrit dans la Bible. Les gens cherchent par toutes sortes de moyens de connaître les temps. Mais tout est écrit, tout est inscrit dans la Bible. Dieu nous a tout dit d'avance afin que nous soyons joyeux. Et Jésus va dire, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. En conclusion, je voudrais dire que nous avons besoin de retenir de cette histoire. C'est que Dieu n'abandonne jamais son enfant qui se confie en lui. Et si ce matin tu te confies en Dieu, alors que tu es entouré de tous tes ennemis, alors tu es heureux. Parce que Dieu ne tardera pas à intervenir. Quelquefois, il permet même in extremis pour renverser la vapeur. Ça, il sait ce qu'il fait. Parce qu'au travers de l'épreuve que tu es en train de vivre, au travers de la difficulté que tu es en train de vivre, Dieu est en train de travailler ton cœur, de fortifier encore ta foi, de te donner encore, par la patience et la persévérance, à voir que Dieu exauce toujours celui ou celle qui se confie en lui. Quand les adversités nous environnent et nous défient, ne laissons pas l'étreinte de la peur, de la frayeur nous envahir. Mais au contraire, sachons, tout comme Élisée, placer notre confiance en Dieu. Amen, frères et sœurs. Un Dieu qui, comme le dit la Bible, qui est un puissant secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Juste un dernier verset avant que nous puissions prier. Deutéronome chapitre 31 verset 8, un verset que j'affectionne de manière particulière. C'est Moïse qui l'adresse à Josué. Il va dire, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point. Et ne t'effraie point, peuple de Dieu. Amen, prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu nous rappeler ce matin que tu es celui qui est prêt à déployer toute cette armée céleste pour pour garder, protéger ton fils ou ta fille qui se confie en toi. Nous connaissons, Seigneur mon Dieu, quelques bribes de ton amour infini au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. La mort même de Jésus est une preuve de ton amour infini à notre égard. Et tu l'as dit encore par la bouche de l'apôtre Paul, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, à combien plus forte raison va-t-il nous donner tout ce dont nous avons besoin ? Et dans l'adversité, lorsque nous sommes environnés de nombreux ennemis, nous avons encore la possibilité de choisir comme le prophète Élisée, de continuer à placer notre confiance en toi. Car tu ne fais pas défaut à celui ou celle qui se confie en toi. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui passent des moments difficiles, qui sont dans l'agitation peut-être ce matin, qui sont dans la frayeur, qui sont dans la peur, qui sont dans des questionnements. Apporte, Seigneur, je te prie, à leur cœur cette paix. Et que de ta bouche, ils puissent entendre pleinement. Ne crains point. Seigneur, Père, aide-nous, Seigneur, au contraire, alors que nous sommes nous-mêmes menacés, Seigneur, que nous puissions, à cause de la foi que nous mettrons à valoir, eh bien bénir notre prochain. Communiquer cette même paix surnaturelle qui nous envahit et aussi également prier encore, Seigneur, Père, mon Dieu, même pour nos ennemis. Seigneur, donne-nous à vivre, Seigneur, l'extraordinaire, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et Seigneur, tout comme les disciples, nous t'avons pleinement au cœur même de notre barque, la barque de notre cœur. Et tu vogues avec nous. Et tu nous as promis que tu nous mènerais jusqu'au port désiré. Fortifie, encourage ce matin. Père céleste, au nom de Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit...